Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui parcourt le monde de l'économie, un monde sans frontières. La preuve, aujourd'hui, nous allons parler du secteur portuaire, du trafic maritime entre les différents continents et de la place de plus en plus centrale occupée par les ports en Afrique. Ces dernières années avaient déjà mis en lumière leur importance dans le commerce mondial et voilà que la guerre au Proche-Orient, les attaques houthis en mer Rouge ont une conséquence que l'on ne pouvait imaginer. Pour des raisons de sécurité, de nombreux armateurs évitent ce passage par le canal de Suez entre l'Asie, le Moyen-Orient et la Méditerranée.
Avec leurs drones et leurs missiles, ils terrorisent le trafic maritime mondial.
Alors qu'ils reliaient les Émirats arabes unis à la Bulgarie, ce cargo exploité par une entreprise libanaise a été attaqué le 19 février dans le golfe d'Aden près du Yémen.
Plus aucun bateau Maersk dans le détroit de Bab el-Mandeb jusqu'à nouvel ordre. Le géant du transport maritime danois ne veut pas prendre de risques après les nouvelles attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires marchands en mer Rouge.
Obligation donc au moins provisoire de contourner le continent africain, de chercher de nouvelles escales avec des incidences économiques et forcément environnemental. Un secteur soumis à l'actualité, alors qu'il était déjà en profonde mutation en matière de technologie, d'investissement, de gouvernance, compenser les retards structurels. Sujet passionnant que nous allons analyser avec nos invités, trois spécialistes. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir Yann Alix. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le délégué général de CEFACIL, S-E-F-A-C-I-L. C'est un laboratoire d'idées sur les stratégies maritimes, portuaires et logistiques. Vous parcourez la planète et notamment l'Afrique où vous collaborez à des projets de formation de génie civil, c'est bien cela ?
Et d'accompagnement aux autorités publiques, autorités portuaires sur effectivement les trajectoires prospectives et stratégiques en matière portuaire, maritime et logistique, effectivement.
Vous travaillez pour le port du Havre, port historique en France, et c'est de là que vous êtes en ligne. À mes côtés en studio, j'accueille Amaury de Féligonde. Bonjour.
Bonjour Bruno.
Co-fondateur d'Ocan Partners, une société de conseil en finance et en stratégie. Vos clients sont des sociétés, des fonds d'investissement, des bailleurs, des États africains, en particulier sur les secteurs qui portent la croissance du continent africain. Il y a l'énergie, il y a l'agro-industrie, les ressources naturelles et bien sûr les infrastructures et donc les ports.
Absolument, nous sommes très actifs dans le secteur portuaire, dans le secteur maritime. Donc de nombreux clients parmi les plus gros faiseurs dans ce secteur. Donc des fonds d'investissement comme Meridiam, des sociétés comme Marsa Maroc, comme MSC AGL, comme Arise Ports and Logistics. Mais aussi, nous travaillons évidemment avec les partenaires publics, donc un certain nombre de ports, d'autorités portuaires. Nous travaillons aussi pour la Banque mondiale, pour la Banque africaine, dans le cadre de la structuration, du financement de ces projets de développement portuaire en Afrique.
Et vous avez publié, il y a quelques années, un rapport complet sur les ports en Afrique avec des recommandations. Nous verrons ce qui a changé ou n'a pas changé depuis. Et enfin, notre troisième invité, en ligne cette fois du Cameroun, du port de Kribi, dans le sud du pays. Bonjour Michael Mama.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes le directeur d'exploitation de ce port autonome de Kribi, un port en pleine croissance. Rapidement, un chiffre sur ces dernières années.
Alors, ces dernières années, c'est plus de 60 millions de tonnes de marchandises traitées. Donc ça, c'est très intéressant. Et plus de 2414 escales navires. Donc pour un port qui a démarré ses opérations en 2018, c'est des résultats très remarquables.
Et nous allons y revenir. Nous sommes impatients de connaître vos commentaires, vous auditeurs et internautes sur cette émission. Rendez-vous sur notre page Facebook RFI Eco, R-F-I-E-C-O. C'est parti. Et Et avant tout cela, pour bien comprendre l'importance qu'a pris ce secteur maritime en Afrique, au-delà même des frontières du continent, je vous propose un reportage rare. Reportage dans le port de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le port de Jebel Ali, le 9e port du monde, le plus grand port artificiel, de loin le plus grand, le plus achalandé du Moyen-Orient. C'est une région de plus en plus connectée avec l'Afrique. Les exploitants de ce port de Dubaï ont ouvert leurs portes à notre correspondant Nicolas Kérodrin. Voici son reportage.
Ça, c'est l'un des trois entrepôts que nous avons aujourd'hui aux Émirats.
Cet entrepôt, c'est celui du géant du transport maritime Maersk. À Dubaï, l'entreprise danoise opère sur près de 40 000 mètres carrés d'infrastructures au total. Le groupe pourrait encore s'étendre, comme l'explique Sarah Rachid, responsable de la logistique contractuelle pour Maersk.
Les trois entrepôts sont différents. Ce ne sont certainement pas les plus grands que nous avons. Nous avons aussi de très grands centres d'opération dans la région Asie-Pacifique, où nous opérons sur des centaines de milliers de mètres carrés. Mais nous avons ici un plan très ambitieux pour doubler, voire tripler nos capacités dans les prochaines années, puisque Dubaï est un emplacement stratégique qui permet de servir une grosse partie de la région. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi passés de 10 000 mètres carrés en 2021 à 40 000 aujourd'hui.
L'entreprise danoise, installée aux Émirats Arabes Unis depuis plus de trois décennies, a donc considérablement développé sa présence dans le pays ces trois dernières années seulement, car Dubaï est devenu un hub mondial des chaînes logistiques et d'approvisionnement. Ce qu'il explique, c'est la position géographique centrale de l'Émirat au Moyen-Orient entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. En parallèle, les autorités locales ont aussi massivement investi dans le réseau d'infrastructures. Christopher Cook est le directeur général de Maersk pour les Émirats Arabes Unis.
Nous sommes ici à seulement 20 minutes de l'un des plus importants ports au monde. Nous sommes aussi juste à côté de l'un des plus gros aéroports au monde. Donc Dubaï a cet avantage d'avoir des points de connexion très forts avec les marchés internationaux.
Devant l'entrepôt, situé dans l'une des nombreuses zones franches de l'Émirat, des camions porte-conteneurs floqués du logo de Maersk déchargent leurs marchandises. Ils arrivent tout droit du port de Jebel Ali, situé à seulement quelques kilomètres de là. Ce port, ouvert à la fin des années 70, est aujourd'hui l'un des plus grands au monde. 14 millions de conteneurs ont été traités ici en 2022. Dans la salle d'opération de l'un des quatre terminaux du port, Peter et ses collègues chargent et déchargent les conteneurs depuis leur ordinateur.
It depends. Terminal 2, approximately, we are doing sometimes 10,000 plus TEUs we are doing.
Ça dépend. Au Terminal 2, par exemple, on peut gérer entre 10 000 et 12 000 conteneurs par jour, selon la charge de travail. Au Terminal 4, on peut faire entre 2 000 et 3 000 conteneurs par jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Tout est automatisé.
Loin du bruit des grues automatisées et du va-et-vient des camions, Abdullah Al-Hashimi travaille dans son bureau. Il est le directeur des opérations de DP World, cette entreprise émirienne à la gestion du port de Jebel Ali ainsi que celle de sa zone franche.
Oui, si vous regardez la zone franche de Jebel Ali et même Dubaï en général, c'est le troisième marché mondial de la réexportation, donc les connexions sont très larges. On ne sert pas que les besoins des Émirats, même si on le fait aussi, on sert les besoins de toute la région autour de nous, que ce soit en Afrique, sur le sous-continent indien, les pays du Golfe ou ceux du Levant. Les connexions de Jebel Ali pour la chaîne d'approvisionnement et le secteur maritime sont donc vastes.
Les activités de DP World ne se limitent pas simplement à Dubaï, puisque l'entreprise est présente sur les 6 continents et opère 137 terminaux, dont 94 ports maritimes partout dans le monde, y compris en Afrique. En 2021, l'entreprise émirienne s'était même engagée à investir 1 milliard de dollars sur le continent au cours des prochaines années.
As a business and as a operator of key infrastructure for any government.
En tant qu'entreprise et opérateur d'infrastructures essentielles pour les gouvernements du monde entier, nous essayons toujours de nous aligner sur les aspirations de chacun, que ce soit d'un point de vue économique ou social. Nous voulons stimuler les économies, créer de l'emploi, être un acteur économique et un partenaire responsable. C'est quelque chose que nous faisons à travers le monde, que ce soit aux Émirats, en Afrique ou dans n'importe quelle partie du monde. C'est ça la philosophie de nos investissements.
Pour Dubaï et les Émirats Arabes Unis en particulier, DP World est certes un instrument au service de sa stratégie de diversification économique. Mais grâce à ces investissements, c'est aussi un outil qui sert les intérêts diplomatiques et stratégiques du pays. Nicolas Quérodrin, Dubaï, RFI.
Dubaï, ville monde. Je vous annonce d'ailleurs que nous y serons très bientôt pour deux émissions consacrées à la stratégie économique des Émirats Arabes Unis et des pays du Golfe plus généralement. Comment ils attirent les investisseurs du monde entier, y compris africains. Restez donc connectés. De retour avec nos invités Yann Alix, Michael Mama, Amaury de Féligonde pour parler de ce secteur portuaire africain. Yann Alix, qu'est-ce que vous inspire ce reportage dans le port de Dubaï ?
Écoutez, c'est un formidable exemple de cristallisation de la mondialisation depuis maintenant près d'un demi-siècle. Dubaï a changé un peu la manière dont la circulation des grands flux intercontinentaux est organisée dans l'hémisphère nord, mais aussi dorénavant dans des relations sud-sud. Et surtout, c'est une incroyable success story puisque finalement, autour d'une réussite économique et logistique, on a maintenant un espèce de modèle clé en main exportable et les autorités de Dubaï ne s'y trompent pas puisque aujourd'hui DP World est un opérateur de manutention qui est dorénavant un des acteurs majeurs de la manutention dans le monde et notamment sur le continent africain.
Michael Mama, votre port de Kribi a d'ailleurs ouvert il y a quelques années de nouvelles destinations avec le Moyen-Orient et avec l'Asie.
Oui, effectivement. Il faut savoir que déjà au niveau des opérateurs de marchandises, importateurs, exportateurs, au niveau du continent africain et du Cameroun en particulier, les destinations du Moyen-Orient et de l'Asie sont privilégiées, sont nos premiers fournisseurs et nos premiers clients. Donc dans ce cadre-là, les infrastructures portuaires nous ont permis d'avoir une ligne directe qui touche déjà l'Asie du Sud-Est, notamment les grandes zones économiques spéciales de la Chine, donc via la ligne ASAF, qui est opérée par CMA-CGM. Nous avons aussi la ligne Midas qui nous permet de toucher non seulement l'Inde, mais en plus Jebel Ali, dont on vient de voir le magnifique reportage, qui est une plateforme importante qui permet de déployer ses actions. Et en plus de cela, beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'opérateurs économiques camerounais travaillent déjà à partir de Dubaï. Et donc, on commence à avoir énormément de flux qui arrivent de cette zone-là. Sans bien évidemment compter la ligne Max Wax, qui nous permet aussi de toucher directement l'Inde, qui est l'autre géant de la région.
Amaury de Féligonde.
Oui, écoutez, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir la place qu'a pris Dubaï, notamment avec Jebel Ali, mais aussi avec DP World. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça génère de la compétition avec d'autres acteurs de cette région. On peut penser à AD Ports, donc Abu Dhabi Ports. On peut penser au Qatar, qui récemment s'est intéressé à un certain nombre de ports, notamment en RDC. Mais plus largement, on assiste sur les 10 dernières années à l'apparition d'un certain nombre d'acteurs nouveaux. On pense aux Marocains, avec évidemment Tangemed, mais aussi Marsa Maroc, qui a dans sa feuille de route la volonté de se développer dans les ports d'Afrique subsaharienne. Alberak aussi, un acteur turc. Yildirim, évidemment, qui est dans le capital de CMA-CGM. Tout ça est assez passionnant et indique une recomposition de ce secteur portuaire et maritime africain, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose, puisque la concurrence va très certainement mener à des ports plus efficaces et au bénéfice du consommateur final africain.
Yann Alix, cette recomposition, cette émergence en Afrique de ports de classe mondiale, Tanger et d'autres, est-ce qu'on peut parler d'une course au gigantisme ?
Alors, une course au gigantisme a deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est au nord du Sahara, avec l'émergence de très grands hubs comme à Port Saïd, mais surtout à Tangemed. Tangemed, c'est 8,6 millions d'EVP en 2023. Les EVP, c'est-à-dire équivalent 20 pieds, unité de mesure qui correspond à un conteneur et que l'on utilise dans les terminaux portuaires. Mais Tangemed, c'est aussi 122 millions de tonnes de marchandises manutentionnées dans un port qui n'existait pas il y a deux décennies. Donc on a une véritable émergence qui se manifeste par le fait que Tangemed est parfaitement situé sur le croisement des lignes est-ouest et nord-sud. Et puis au sud du Sahara, vous avez un gigantisme qui est toutefois relatif par rapport aux 24 000 boîtes qui circulent entre l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, on a des navires régulièrement qui touchent les ports africains, subsahariens de 15 000, voire même de 18 000 boîtes, ce qui est tout de même relativement extraordinaire puisque c'est un triplement de la capacité moyenne des plus grands navires en moins de 15 ans. Donc effectivement, ce à quoi on assiste, c'est véritablement un rattrapage infrastructurel et une mise aux normes internationales des plus grandes plateformes portuaires au sud du Sahara, ce qui manifeste évidemment la solidité de la croissance économique et l'intérêt des grands opérateurs maritimes à venir escaler dans des ports qui sont toujours plus modernes.
Michael Mama, vous êtes d'accord avec cette expression de rattrapage pour l'Afrique subsaharienne ?
J'apporterai quand même une nuance parce que, en vérité, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'il y avait déjà une problématique côté mer pour les armateurs et les opérateurs maritimes. Il était nécessaire de pouvoir déployer moins de navires sur le continent africain tout en fournissant des services beaucoup plus optimisés. Donc forcément, ça entraînait à une autre problématique qu'il y avait côté terre, c'était le fait que nous avions des infrastructures vétustes et qui, en plus de cela, étaient malheureusement enclavées par les territoires économiques qui avaient vu le jour autour de ces infrastructures-là. Donc on peut parler des grands pôles économiques africains tels que Douala, Abidjan, pour ne parler qu'eux, ou encore Lagos. Et donc forcément, la stratégie qu'il y a dû y avoir, c'était de pouvoir avoir des infrastructures maritime qui permettait d'accueillir des navires d'une certaine capacité pour fournir non seulement la prestation aux différents armateurs et donc à partir de ce moment avoir une place prédominante et en plus de cela pouvoir avoir des infrastructures nouvelles hors des grosses agglomérations qui permettaient d'améliorer la connectivité pour l'ensemble des opérateurs économiques. Enfin, il faut bien comprendre que l'intérêt des grands armateurs mondiaux pour le continent africain est qu'ils pensent que, ils souhaitent que, et nous pensons tous d'ailleurs, que le boom démographique et économique qui est attendu de l'Afrique fera de l'Afrique le marché de demain. Et donc les investissements sont nécessaires maintenant pour pouvoir voir le prochain pilier économique qui dominera le monde au niveau du transport maritime après l'émergence que nous avons eue, notamment du côté de l'Asie du Sud-Est, avec la Chine en particulier.
Mmh. Amaury de Féligonde, ce qu'on entend, c'est que les investissements attirent finalement les investissements et que cette émergence de champions, elle dépend aussi des investissements venus d'ailleurs.
Oui, alors effectivement, c'est à peu près 15 milliards de dollars qui ont été investis entre 2005 et 2020. Ça, c'est juste l'investissement privé dans les ports. Donc, on peut parler du port de Tangemet, c'est à peu près 2 milliards. On peut parler du port de Djibouti, du port de Lomé aussi, où TIL, MSC, a énormément investi à hauteur d'à peu près 400 millions de dollars.
Qui en a fait sa plateforme en Afrique de l'Ouest.
Qui en a fait sa plateforme de transbordement. Tout ça est très intéressant parce que ça s'inscrit aussi dans un mouvement d'industrialisation de l'Afrique. Autour de Tangemed, il y a certes un port de transbordement, mais il y a aussi une énorme plateforme industrielle qui s'est mise en place autour notamment des métiers de l'automobile, avec une très grosse usine Renault qui exporte plusieurs millions de véhicules par an. On peut parler aussi des nouvelles plateformes industrielles qui sont mises en place au Gabon, autour de Nkok, qui exporte des produits du bois, en fait, des meubles. On peut penser aussi au Bénin et au Togo, à deux nouvelles zone industrielle portée par un acteur africain qui s'appelle Eurise, qui aujourd'hui développe l'industrialisation des produits qui ne vont donc plus partir à travers ces ports sous forme de produits bruts, mais de produits manufacturés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique.
Écho d'ici. Écho d'ailleurs
sur RFI.
Alors il y a donc ce nouveau grain de sable dans la machine portuaire internationale, nouvelle crise majeure, le conflit au Proche-Orient, les attaques parfois meurtrières des rebelles houthis au Yémen, obligeant les grands opérateurs à s'adapter. Écoutez ce qu'en disait très récemment à notre micro Philippe Labonne, le président d'Africa Global Logistics, AGL, désormais intégré au géant MSC.
Depuis ces dernières années, nous avons bien compris que le monde était de plus en plus imprédictible. Nous avons eu le Covid, nous avons eu la guerre en Ukraine, nous avons également la situation au Moyen-Orient. Et ceci implique que les logisticiens, les supply chains doivent s'adapter. En ce qui concerne la mer Rouge, les compagnies maritimes maintenant passent par le Cap de Bonne-Espérance et ont dû rajouter sur leur range deux navires sur là où il y en avait 10 avant. Donc le parcours est plus long, aller-retour de 20 jours. Et effectivement, ça coûte plus d'argent aux compagnies maritimes et donc à la fin à nos clients.
Philippe Labonne, le patron d'AGL, président du comité Afrique du patronat français, entretien intégral sur la chaîne YouTube de RFI. Yann Alix, 20 jours de plus, disait Philippe Labonne. Comment on évalue l'impact de ces blocages en mer Rouge ?
Écoutez, nous, on a fait, avec la Fondation C'est Facile, une étude sur les 3 mois avant, 3 mois après du blocage de Suez, au regard du déploiement des unités conteneurisées entre Asie et Europe. Et le constat est le suivant, c'est que évidemment, on a un détournement des plus grandes unités conteneurisées, donc tout ce qui est au-dessus de 15 000 EVP et systématiquement au-dessus de 18 000 EVP n'emprunte plus le canal de Suez. Et donc effectivement, on a une réorganisation, je dirais quasiment en temps réel, pour pouvoir, comme le disait très justement Philippe Labonne, anticiper les incertitudes liées à finalement à une remise à jour quasi quotidienne du niveau de sécurité au niveau du passage de la mer Rouge. Et donc, qu'est-ce que l'on observe? On observe évidemment que c'est la Méditerranée orientale qui est la plus impactée par le contournement. Un port comme Port Saïd a perdu plus de 5 millions de VP de capacité théorique. Quand je dis capacité théorique, c'est l'ensemble des escales des grands navires qui n'escalent plus à Port Saïd. Et à l'inverse, on constate que finalement, l'effet sur les ports africains est relativement faible, si ce n'est que Tangemed renforce sa capacité d'attractivité en termes d'éclatement de flux, puisque quand vous arrivez d'Asie pour desservir notamment la Méditerranée, en particulier la Méditerranée orientale, le chemin le plus court, malgré le détournement de plus de 20 jours, c'est de faire un stop-over à Tangemed et de réorganiser ses flux autour de ce point focal. Sur les ports du sud saharien, on n'a pas constaté nécessairement beaucoup d'évolution, les grandes unités n'ayant absolument pas d'intérêt aujourd'hui à faire une escale intermédiaire, si ce n'est probablement sur des problématiques de soutage, mais pour l'instant, c'est Fujairah, le grand centre de soutage de l'espace moyen-oriental, qui tire profit. On a Walvis Bay qui a accueilli des navires de Maersk dans la descente de l'Europe vers l'Asie. Et on a Port Louis qui fait la même chose dans le sens Asie vers l'Europe pour le compte de MSC.
À Maurice. Michael Mama, chez vous au Cameroun, pas de modification, pas de changement des escales ?
Non, chez nous, pas de changement des escales, effectivement, tel que l'expliquait Yann. La particularité, c'est que les grands services de référence qui sont tenus par les armateurs à notre niveau passaient de toute façon déjà par le Cap de Bonne-Espérance, et donc on n'avait pas un passage par le canal de Suez. Cependant, pour toutes les lignes qui quittent l'Asie, notamment le port de Shanghai, même s'ils ne passaient par le canal de Suez, la réorganisation a causé une augmentation du taux de fret. C'est vrai qu'ils sont plus importants au niveau de l'Europe et des États-Unis, où on voit quand même un doublement du taux de fret qui a été constaté depuis janvier. Mais cependant, pour l'Afrique, c'est relativement bas, cette augmentation que nous avons subie, et ça ne freine absolument pas les opérations qu'il y a entre les deux parties du monde.
Maurice Féligonde, on a vu des titres dans la presse, des ports africains débordés par l'augmentation des escales. Il y a quand même localement des problèmes de capacité liés à cette situation en mer Rouge.
Écoutez,
est-ce que c'est structurel ?
Alors, je pense qu'il faut regarder port par port. Hein. Parler de l'Afrique en général, c'est toujours assez compliqué. Le principal impact en fait, de cette crise en mer Rouge, d'abord, c'est pour l'Égypte, évidemment, puisque ça représente, je crois, de l'ordre de 10 milliards de dollars de revenus pour l'Égypte qui ne vont pas arriver cette année. Donc, c'est absolument dramatique.
Et des pays de la région aussi, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan.
C'est quand même beaucoup pour l'Égypte, je pense. Deuxième chose, évidemment, c'est pour le consommateur final, donc souvent européen. La bonne chose, je dirais, c'est que...
C'est toujours le client qui paye à la fin.
Exactement. Une autre chose intéressante qui est en train de se passer, c'est l'ouverture prochaine de Nador, donc un autre grand port marocain. On va voir comment tout ça se développe. Mais si Tangemed est un exemple de choses qui fonctionnent, Nador devrait aussi fonctionner. Et puis, la dernière chose peut-être à souligner, c'est l'impact de ce contournement du continent. Sachant que ce point de passage, c'est 15 à 20% en volume et en valeur des flux mondiaux. Donc c'est vraiment massif. L'impact que ça a sur les résultats des grands armateurs, des principaux armateurs, que sont CMA, Maersk, MSC. Ça va avoir très certainement un impact sur leur profit de l'année. On rappelle que CMA...
Même s'ils répercutent le coût de leur service ?
Absolument, ils répercutent. Alors il y a ce problème des outils et il y a aussi un problème probablement un peu de surcapacité de ces lignes par rapport à la demande qui est un peu molle, qui en tout cas en 2023 est un peu molle. Donc voilà, tout ça mis ensemble va faire passer un CMA, je crois, de à peu près 25 milliards de bénéfices en 2022, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire plus que Total, plus que le LVMH, donc c'est tout à fait historique, à peu près 3 ou 4 milliards de bénéfices l'année dernière.
Voilà qui nous mène à un sujet qui est lié, l'engorgement de certains ports africains. On en parle juste après le franco-camerounais Yamé et ce titre, Quête.
Chante la mélodie et vois que la moula du Katanga. Chameau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas.
C'était Yamé sur RFI. Nous parlons des ports, P-O-R-T-S, au Cameroun et ailleurs, avec nos invités Michael Mama, directeur d'exploitation du port de Kribi, Yann Alix, Fondation C'est Facile, Amaury de Féligonde, Okan Partners.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Renaud Fort.
Selon l'indice de performance des ports à conteneurs, établi par la Banque mondiale, près d'un tiers des 50 ports les moins performants dans le monde sont localisés en Afrique subsaharienne. La performance des ports africains, les temps d'attente. Un exemple en Gambie, le port de Banjul, Milan Berkmans s'y était rendu pour RFI dans le cadre d'une série de reportages sur les ports dans le monde.
Sur les quais du port de Banjul, les travailleurs du jour s'abritent de la pluie dans des conteneurs vides. Les va-et-vient des intempéries rythment l'ouverture des cales d'un navire de gros tonnage qui transporte du riz et empêche son déchargement. Keita Sangor, agent maritime pour un grand groupe de logistique portuaire.
Le problème, c'est qu'on a de la pluie depuis 8h du matin et un navire de gros tonnage comme ça, ce n'est pas possible de l'ouvrir parce que c'est du vrac, ça peut pourrir.
Pour ce responsable du transport qui emploie une cinquantaine d'hommes à la journée, l'autre grand problème, c'est le manque d'espace sur les quais.
Comme vous pouvez le voir, nous n'avons que 2 ou 3 quais, A et B, et puis le numéro 1. Et donc, nous ne pouvons pas prendre plus de 3 bateaux par appel qui puissent accoster.
Ici, les porte-conteneurs se relaient 24 heures sur 24 pour tenter de désengorger les 3 terminaux qui dépassent souvent leur capacité, comme l'explique Boubanjay.
La capacité du terminal est normalement autour des 1500 conteneurs. Ici, on en a 2000. Parfois, on va en avoir quasiment 3000. Et c'est là que ça devient hors de contrôle.
Pour répondre à ce problème de capacité, les autorités gambiennes ont principalement travaillé sur l'acquisition de propriétés privées situées aux abords du port. En attendant, face au long délai d'attente pour les livraisons au port, entre 10 jours et 4 semaines, de nombreuses entreprises en Gambie choisissent de passer par d'autres ports de la région plus efficace et moins coûteux.
Reportage de Milan Berkmans dans le port de Banjul en Gambie. Michael Mama, cette question des capacités, des temps d'attente et donc des performances des ports en Afrique, quand vous écoutez ce reportage en Gambie, vous vous y retrouvez, vous voyez des points communs avec la situation au Cameroun?
Oui, nous l'avons retrouvé au Cameroun, notamment pendant longtemps au niveau du port de Douala avant l'émergence de Kribi. Pour des questions infrastructurelles, les ports historiques africains ont été enclavés par les agglomérations et les pôles économiques qui sont nés autour d'eux. Et donc, ça limitait leur capacité de pouvoir se déployer en termes de volumétrie, de superficie de stockage d'une part, et même d'augmentation de leur capacité d'accueil des navires à quai et pour les marchandises pour les yards. Donc, en plus de cela, le fait de ne pas être des ports en eau profonde faisait qu'ils ne pouvaient pas accueillir non seulement des navires de grande importance d'une part, et de plus, il y avait des temps d'attente en rade qui étaient importants. Pour le Cameroun spécifiquement, Kribi a réglé la problématique. Pour les services aux navires, nous sommes à moins de 24 heures pour faire une opération complète, donc temps d'attente, plus opération à quai, plus sortie du navire. Et ça, pour des navires de très grande importance, 10 000 EVP, 15 000 EVP que nous pouvions avoir sur le territoire et la zone de compétence.
Yann Alix, vous avez constaté cette prise de conscience du manque de capacité et du manque d'espace pour les ports pour absorber la hausse du trafic?
Ce qu'il est important de remarquer, et le reportage à Banjul le montre très bien, c'est la diversité et l'hétérogénéité des situations portuaires africaines. Vous avez toujours, et c'est pour ça qu'un tiers des ports les moins performants se trouvent sur le continent, vous avez toujours des situations, effectivement, comme à Banjul, où ces ports historiques sont enchâssés dans des villes où les niveaux d'expansion sont très limités et les capacités et les profondeurs d'eau sont absolument inconsistantes par rapport aux situations de marché d'aujourd'hui. Et à l'inverse, vous avez des grands terminaux et des grands ports qui ont su justement s'adapter pour proposer des interfaces navire-terminal qui soient, je dirais, parmi les plus performantes justement en termes de standards internationaux. J'en veux pour preuve notamment LCT à Lomé, qui est un terminal qui a été construit justement pour aller gagner moins 16 mètres de tirant d'eau et qui présente des productivités et des fiabilités en termes de manutention et de temps d'attente et de temps de service qui sont comparables aux standards internationaux européens notamment. Vous avez la même chose à Tema, au Ghana, un port qui a su aussi élever son niveau de productivité et de performance et surtout de fiabilité. Vous avez très peu de mouvements sociaux, notamment dans les ports africains, qui permet de présenter des niveaux de performance au niveau des armements, qui justement les encourage à envoyer des unités de 15 000 EVP et plus pour avoir des escales qui parfois prennent plusieurs milliers de mouvements de conteneurs en quelques heures ou en quelques jours seulement d'exploitation.
Amaury de Féligonde, c'est quelque chose dont vous discutez forcément avec vos partenaires, cette question des capacités, construire de nouveaux ports ou alors agrandir ceux qui existent déjà?
Alors non seulement on en discute, mais on est un acteur de ce mouvement de mise en place de nouveaux investissements, de nouvelles infrastructures, de nouvelles méthodes aussi qui permettent de fluidifier et d'améliorer le fonctionnement de ces ports africains. Alors encore une fois, je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de nouveaux investissements, de nouvelles façons de faire qui ont été mises en place d'ores et déjà. Alors on parle évidemment souvent de Tangemed, on peut parler de Lekki qui vient d'être ouvert au Nigeria et qui va certainement un peu désengorger le port de Lagos, qui est assez catastrophique à date. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres pays dont on parle moins. Par exemple, à Madagascar, des investissements assez massifs ont été faits dans le principal port du pays avec ICTSI, avec des financements japonais. Et donc, sur la quasi-intégralité du continent, on voit vraiment cette espèce de grand mouvement en avant, avec plusieurs choses. D'abord, une privatisation des PPP, des concessions qui permettent de mettre en place des partenariats publics-privés avec de plus en plus de concurrence. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc on n'a plus aujourd'hui uniquement AGL. On a aussi des acteurs marocains, on a des acteurs turcs, on a des acteurs du Golfe, on a des acteurs asiatiques. Deuxième chose, on a ces nouveaux investissements. Donc Kribi est un très bon exemple, mais il y en a d'autres. Il y a Dorale, il y a Lomé dont on a parlé, il y a la mise en concession à nouveau en Afrique du Sud, d'un terminal qui ne fonctionnait pas très bien à Durban. Et puis, on a aussi plus du soft, c'est-à-dire la numérisation, la digitalisation, je sais qu'on va en parler, qui permet en fait d'avoir des processus beaucoup plus fluides et d'avoir des opérations dans les ports qui sont beaucoup plus efficaces, que ce soit en termes de mouvement de conteneurs, nombre de mouvements par heure, mais aussi de nombre de jours que passe un conteneur dans le port. Parce qu'un port, ce n'est pas fait pour contenir des conteneurs, c'est fait pour faire passer des conteneurs et sortir des conteneurs le plus vite possible.
Michael Mama, la digitalisation, c'est ça la solution pour réduire les temps de séjour des conteneurs? C'est ce que vous faites à Kribi?
Alors oui, Kribi a fait le choix d'être 100% dématérialisé dès le départ. Donc, pour cela, nous avons mis en place un système d'information portuaire totalement interconnecté avec l'ensemble des autres systèmes d'exploitation des autres acteurs, que ce soit avec la douane qui a CAM6, que ce soit avec le PAC lui-même, port autonome de Kribi, que ce soit avec l'ETHOS des différents concessionnaires, et j'en passe. Donc ça, c'est un choix stratégique. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de fluidifier les opérations et de pouvoir travailler avec la même information au même moment, donc pour éviter certains temps d'attente liés au papier. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Mais après, les efforts doivent continuer. Il faut vraiment qu'on puisse utiliser les nouveaux éléments qui arrivent à notre disposition. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense au blockchain, et de pouvoir avoir une innovation certaine. Ça assure vraiment une fluidité des opérations, une sécurisation des recettes et surtout d'améliorer un maximum la productivité, même dans le cadre des opérations de suivi et contrôle que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos différents concessionnaires.
On a commencé à l'aborder avec Amaury de Féligonde, Yanalix, cette question des investissements, cette question de l'implication du secteur privé, minimiser les risques financiers quand on investit dans un port en Afrique.
Aujourd'hui, je crois que c'est un des fantasmes, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. L'investissement sur un terminal est quelque chose de garanti, de sécurisé. Si MSC Shipping, numéro un mondial et numéro un de l'Afrique, a mené cette transaction absolument essentielle qui est d'absorber Bolloré Africa Logistics pour créer AGL l'année dernière, c'est parce que justement ces grands opérateurs qui sont quand même ceux qui maîtrisent les flux, qui sont ceux qui les orientent et qui les organisent et qui les structurent, continuent d'investir sur l'Afrique. Et c'est une excellente nouvelle que de voir un géant comme AGL, porté par le numéro un mondial du conteneur, continuer d'investir avec des moyens qui sont démultipliés par rapport à ceux qu'avait Bolloré, sachant que Bolloré était déjà un acteur majeur. Et vous avez le deuxième acteur mondial qui s'appelle APMT Terminal, la branche armée manutention de Maersk Line, numéro 2 mondial du conteneur. Donc vous voyez, on a les grands acteurs, ils sont confiants dans le marché, ils investissent dans les terminaux, mais comme l'a très bien dit Michael Mama, la problématique du futur pour ces terminaux et ces ports, ce n'est plus gérer correctement l'interface avec le navire, c'est gérer correctement l'interface avec la terre. Et le maillage terrestre, les infrastructures, mais aussi les services et la fiabilisation des échanges de matériel, mais aussi de données, sont, je pense, le grand défi structurel du développement socio-économique du continent pour les prochaines décennies.
Amaury de Féligonde, vous êtes d'accord avec ça, la question de la connexion avec l'intérieur des terres, ne pas voir les ports comme une entité séparée du reste.
Oui, alors je sais que c'est un grand dada de Yanalix, mais que je partage totalement. Et effectivement, on voit un certain nombre de très grands pays africains, comme par exemple l'Éthiopie, qui aujourd'hui est un pays totalement enclavé. On parle aussi du Sahel, le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Tout ça sont des pays enclavés. Et pour eux, il est extrêmement important de pouvoir avoir accès à des ports. Donc jusqu'à maintenant, l'Éthiopie dépendait du port de Djibouti. Le port de Berbera, en cours de développement par DP World, devrait pouvoir être un point d'entrée alternatif pour Djibouti. Les ports du Bénin, du Togo, mais aussi dans une certaine mesure le port de Dakar et les nouveaux ports du Sénégal, que sont le terminal de Barni pour le vrac et de Ndayane qu'on attend, vont aussi être des portes d'entrée extrêmement importantes pour le Sahel. Il y a un certain nombre d'autres ports qui sont en train de se mettre en ordre de bataille, si je puis dire, pour alimenter aussi ces pays de l'Interland. On peut penser à San Pedro, en Côte d'Ivoire, mais on peut aussi penser au port de Nouakchott. Il y a un nouveau terminal à conteneurs assez massif qui a été mis en place à Nouakchott. Et tous ces ports, encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour les pays enclavés, puisque ça va leur donner du choix, ça va mettre en place de la concurrence, ce qui devrait être bénéfique pour le consommateur, pour la ménagère du Sahel, qui a priori paiera moins cher sa logistique.
On sera dans quelques minutes dans le port de San Pedro. Michael Mama, la question des interlandes, vous, le port de Kribi, vous desservez bien sûr l'intérieur du Cameroun, mais aussi d'autres pays de la région, le Tchad, la Centrafrique.
Et le Nord-Congo. C'est une question essentielle. C'est des très bons exemples qui ont été donnés tout à l'heure, que ce soit par Yann ou que ce soit par Amaury. Mais il faut vraiment réussir à avoir une certaine maîtrise de notre hinterland. Aujourd'hui, on a des problématiques de connectivité intérieure, que ce soit pour le Cameroun, pour ces autres pays, malgré les efforts qui sont faits successivement. Il y a un déficit en termes de réseau ferré, il y a un déficit en termes d'autoroutes qui permettent de desservir ces pays. Et il y a un point essentiel qui est très important, c'est qu'il faudrait qu'on change de stratégie et de modèle pour desservir ces pays, que ce soit sur la côte ouest africaine, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale en particulier. Jusqu'à présent, la stratégie des pays enclavés était de pouvoir mettre en place des plateformes et des infrastructures de rupture de charge à proximité des ports. Nous estimons que ce n'est pas une très bonne stratégie parce que la centralisation et la globalisation de l'ensemble des acteurs au niveau des chaînes portuaires ne permet pas la sortie rapide côté terre des marchandises, mais au contraire multiplie les frais et les coûts liés au transport pour pouvoir toucher ces pays. Il est donc nécessaire, à mon sens, d'avoir des infrastructures d'accueil, ports secs, directement dans ces pays enclavés, et de pouvoir changer le modèle du transit tel que nous le vivons aujourd'hui. Il faut qu'on quitte la logique unique de port intelligent pour aller sur une logique de frontière intelligente. Ou dans ce cadre-là, le maillage qu'il y aurait entre l'infrastructure portuaire sèche qu'il y aurait dans ces pays enclavés et l'infrastructure portuaire maritime qu'il y aurait donc sur nos côtes pourrait donc se faire de façon industrielle, si je peux le dire comme ça, avec une chaîne de transport qui serait globalisée. Et au-delà de ça, il serait vraiment aussi important de limiter le nombre d'acteurs qui interagissent sur la chaîne du transit, avec vraiment une police des corridors et d'autres concepts que nous avons en tête qui vont nous permettre de dynamiser, de limiter le nombre de stops éventuels et de contrôles que nous pourrions avoir sur les corridors de transit vers les pays enclavés.
Yann Alix, cette multimodularité, l'apport du ferroviaire en complément du secteur portuaire, la SLECAF, c'est un formidable espoir de ce point de vue-là, non ?
Je reviendrai d'un mot par rapport à ce que disait Amaury. Amaury a très justement rappelé que l'investissement portuaire a été, je dirais, presque florissant depuis 15 ans en Afrique. Le souci aujourd'hui du maillage et de l'accessibilité terrestre, notamment sur les corridors de transport, c'est que le modèle d'affaires n'est pas aussi attractif, notamment pour les acteurs privés et les financeurs privés. Et donc, on a une vraie problématique d'aménagement du territoire et un déficit d'investissement public. On a évalué jusqu'à 1000 milliards de dollars la nécessité d'investir dans la prochaine décennie pour remailler correctement les corridors intérieurs et mieux desservir à l'intérieur du pays. C'était juste une parenthèse par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Quant à la SLECAF, encore une fois, la SLECAF est un formidable élan politique et géopolitique d'unification du plus grand marché intérieur du monde. Sur le papier et dans la signature politique, c'est une formidable avancée du point de vue pratique et opérationnel. Outre le fait d'essayer de fluidifier les passages transfrontaliers et d'homogénéiser et d'harmoniser les procédures douanières, aujourd'hui, la SLECAF ne se manifeste pas, en tout cas c'est mon point de vue, dans un changement radical des pratiques, et je dirais même des opérations au niveau des interfaces portuaires, au niveau de la multimodalité terrestre. Et d'un mot pour finir, aujourd'hui, il est très problématique, à part quand on est un État comme la Chine qui a une stratégie à travers BRI d'investissements bilatéraux sur certains territoires africains, mais il est très compliqué pour un opérateur d'investir dans des sillons ferroviaires en dehors des grands circuits classiques que sont les mines, où vous avez un modèle économique intégré qui permet de construire des voies ferrées totalement dédiées à l'exploitation d'une mine qui connectera à un port, qui connectera à des navires dédiés spécialisés.
Michael Mama, la SLECAF, est-ce que c'est déjà une réalité pour vous au port de Kribi ?
Oui, il y a le changement de modèle sur la gouvernance déjà des ports. Je pourrais dire par contre que pour la SLECAF, Kribi a eu la chance d'accueillir déjà les premières marchandises sur le régime SLECAF. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. Ce qui sera maintenant important, c'est d'améliorer déjà la connectivité entre les territoires africains. Sinon, on ne pourra pas développer de marché intérieur. On va dire le principe même de la SLECAF, c'est qu'il puisse avoir un marché intérieur africain avec des opérateurs économiques qui interagissent entre eux. Les échanges interafricains sont très bas aujourd'hui, ils ne comptent pratiquement pour rien. L'Afrique est tournée vers l'extérieur et c'est ça qui, pour l'instant, va rester un frein par rapport à la SLECAF. Mais la problématique de gouvernance est essentielle. Aujourd'hui, que ce soit pour les investissements, les IDE, ou que ce soit pour l'investissement africain en général, il est nécessaire d'avoir de véritables guichets uniques maritimes africains. Le fait de devoir toucher et de pouvoir devoir travailler avec différentes sectorielles, administratives ou encore avec la douane, plus l'autorité portuaire pour les concessionnaires, pose des problèmes pratiques aux opérateurs qui perdent du délai dans le cadre de leur process de dédouanement notamment et dans le cadre du process d'acheminement de leurs flux. Il est donc nécessaire de pouvoir donner un pouvoir réel au guichet unique maritime, de telle façon qu'il y ait vraiment un transfert de pouvoir vers les territoires avec les responsables qui seront mis en place pour pouvoir cheminer, contrôler, faire le suivi, faire l'évaluation de l'ensemble des flux qu'il y aurait sur les différentes destinations ou en provenance des différentes zones de sourcing que nous avons sur les territoires économiques.
Amaury de Féligonde, changer la gouvernance, effectivement, donner du pouvoir à certains acteurs qui n'en ont pas suffisamment aujourd'hui.
Moi, sur ce thème de la ZLECAF, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de parler en fait de la capacité des pays africains à produire chez eux un certain nombre de produits finis qui puissent ensuite être échangés d'un pays à l'autre. Donc, toutes les références qui ont été faites au manque de connectivité, aux problèmes de frontières, etc. sont exactes. Mais il y a un autre problème, peut-être qu'on sous-estime un petit peu de temps en temps, c'est la capacité de l'Afrique à transformer sur son propre sol ces matières premières qui sont très nombreuses et très précieuses. On pense par exemple à tous les minerais critiques, on peut penser à tous les produits agricoles, le cacao, la banane, la cajou, le coton. Et donc la volonté aujourd'hui des États africains de transformer toutes ces matières premières chez elles. Pourquoi ? D'abord pour créer plus de valeur ajoutée, pour gagner plus d'argent, et puis surtout pour créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, c'est évidemment des infrastructures, c'est évidemment d'un continent qui commerce avec lui-même, mais c'est aussi un continent qui est capable de produire des biens manufacturés et de créer de l'emploi pour cette jeunesse qui arrive année après année, de plusieurs millions de jeunes qui arrivent et qui ne trouvent pas d'emploi qualifié.
Alors justement, l'emploi, il ne faut pas oublier celles et ceux qui travaillent dans ces ports. Les salariés, les dockers, souvent mal payés aussi, et qui vivent dans la précarité avec des petits contrats. Exemple à San Pedro, en Côte d'Ivoire, reportage de notre correspondant François Hume Ferkataji.
Les dockers, affectés à la sacherie, le transport des sacs de fèves de cacao dans le jargon, s'octroient quelques minutes de pause à la sortie de l'entrepôt autour d'un point d'eau. Ils travaillent dans une chaleur étouffante, portant à bout de bras des sacs de 50 kilos pour les empiler dans un conteneur. En sueur, ils sont trempés de la tête aux pieds. En plus de la pénibilité du travail, il faut désormais compter avec les jours chômés non volontaires.
Il n'y a pas assez de travail. Bon, on veut ici, c'est un temps, on gagne. Il n'y a pas assez de travail.
Un peu plus loin, de nombreux dockers patientent au quartier général. Chaque matin, ces travailleurs du port doivent attendre d'entendre leur nom pour savoir s'ils pourront embaucher.
Le matin, c'est ici, les dockers se regroupent et on fait la désignation ici. Toutes ces personnes sont en attente de travail jusqu'à 17h30 et il va y avoir un classement du soir. On affecte encore d'autres vagues qui vont commencer 19h jusqu'à 7h.
Ces dockers travaillent depuis plus de 25 ans au port de San Pedro. Ils patientent en jouant aux dames sous un arbre.
Avant, on travaillait facilement. Cette année, la traite a baissé. Pour avoir du travail est difficile. La cherté du pays est difficile aussi.
Quand tu dis que tu es docker en ville, que tu veux prendre une maison, on te refuse. Puisqu'on sait que c'est un travail temporaire.
Le problème, c'est que le cacao même, on s'attendait à ça. Parce que depuis que les transformations ont commencé, il n'y a plus de sacherie. Donc c'est normal, on devait s'attendre à ça.
Aujourd'hui, en raison de la précarité de l'emploi, la grande majorité des dockers ne touche pas le salaire minimum garanti.
Reportage de François Imfer Kataji dans le port de San Pedro en Côte d'Ivoire. Michael Mama, on entend deux choses, la précarité de l'emploi et la dépendance aussi à d'autres secteurs de l'économie. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le cacao.
Oui, effectivement, c'est un réel problème. Ça me permet de rebondir déjà de 1 sur ce que Amaury a dit tout à l'heure. La création d'emplois est le leitmotiv même de l'ensemble des investissements qui ont été faits ces derniers temps. Si je pense à Kribi, depuis son démarrage, c'est plus de 4000 emplois directs et indirects créés. Et c'est pour cela aussi que nous attachons, dans le cadre de la transformation des marchandises, on a 15 000 hectares de foncier qui a été mis à disposition du port pour développer son bassin industriel. Il y a même une zone industrielle en cours sur 1500 hectares nets qui est en train d'être préparée. Nous travaillons avec un consortium d'entreprises telles que Tangemed, Rise, le groupe Belmont qui est un groupe camerounais et Africa Global Logistique pour justement mettre en place cette zone industrielle dont les bénéfices pourraient aller jusqu'à 50 000 emplois directs et indirects créés dans les prochaines années. Donc c'est vraiment très important l'emploi parce que c'est ça qui va nous permettre de nous développer. Dans le cadre donc des dockers, plus spécifiquement, il y a un choix qui a été fait à Kribi, très concrètement déjà, c'est de pouvoir les sédentariser et de pouvoir les faire accéder justement à des conditions de travail nobles, pratiques, et avec des salaires qui sont plutôt cohérents avec ce qui se passe dans l'économie. Dans ce cadre-là, au niveau camerounais, il y a une convention collective justement qui encadre cela, la convention collective de la manutention portuaire, qui permet justement d'avoir une régulation des salaires et notamment des droits d'entrée sur le marché du travail pour l'ensemble de ces travailleurs-là. Et au-delà de ça, nous continuons d'encadrer l'ensemble des activités qui se passent pour être sûr qu'elles soient promotrices d'emploi et permettent d'avoir des débouchés. Il ne faudra surtout pas oublier les autres aspects qui sont super importants dans le cadre du déploiement des entreprises telles que nous pouvons l'avoir sur nos zones économiques, c'est-à-dire la formation qui est essentielle et une formation en adéquation surtout avec les aspirations et la stratégie de développement que nous souhaitons mettre en place.
Yann Alix, il y a une vraie question sociale dans la gestion des ports en Afrique, le traitement social des salariés, cette précarité.
En toute sincérité, votre reportage sur San Pedro, je trouve, est assez illustratif de la situation. San Pedro, c'est une multiplication par trois des volumes manutentionnés en 5 ans. C'est donc des dizaines et des dizaines d'emplois supplémentaires qui ont été créés, mais ce ne sont pas les mêmes, effectivement, que ceux décrits dans le reportage, avec des hommes qui portent 50 kilos sur leur dos, dans une vision un peu passéiste du docker, voire même une image rétrograde. On a une transformation des métiers, on a des emplois qui sont plus qualifiés. Amaury Féligonde en parlait, et c'est même indiqué dans le reportage. Quand on a des fèves de cacao qui sont transformées localement, effectivement, on envoie moins en brut, donc en sac de 50 kilos, donc on a moins d'eau à mettre à disposition. Mais à l'inverse, on a des emplois qui sont beaucoup mieux payés, beaucoup moins pénibles et qui permettent de créer beaucoup plus de valeur localement. Donc je pense que cette question docker, ou tout du moins juste, parce que je pense que c'est juste la face émergée de l'iceberg, on a des mécanisations, on a des semi-automatisations sur les terminaux, et je crois que personne ne peut s'en plaindre. Les opérateurs comme AGL et d'autres ont énormément investi, et donc c'est de la création nette d'emplois, et c'est surtout des emplois qui sont plus modernes et qui sont dans des contrats de travail régularisés. Et donc on ne peut que se féliciter que cette industrialisation d'un côté, cette croissance des trafics import-export de l'autre, génère de l'emploi et génère surtout un emploi qui est dans un secteur formel et non informel. C'est bien la grande différence de ces dernières années, c'est que de plus en plus, on est en train de régulariser un ensemble d'activités portuaires et périportuaires en les faisant tout simplement rentrer dans des schémas beaucoup plus sécurisés, avec des contrats de travail beaucoup plus solides et des rémunérations qui suivent, puisque le partage de la croissance y passe aussi par le fait d'avoir une main-d'œuvre qui soit disponible, qualifiée et surtout qui n'ait pas envie de perdre son emploi demain ou d'être dans des schéma de précarité en fonction, bah justement, par exemple, d'une seule et unique denrée comme le cacao, qui est très volatile sur les marchés mondiaux.
Une amélioration globale, nous dit Yann Alix, Amaury de Féligonde, la question centrale de la formation. Si on a des nouveaux métiers, si on a une gestion plus technologique des ports en Afrique, il faut former ces personnels.
Oui, alors on a souvent quand même une vision un peu technocratique, un peu technicienne des choses. Il y a un vrai problème social. Mais le problème social, c'est pas que ces personnes portent des sacs sur leur dos, c'est le fait que de façon assez inéluctable, comme le disait Yann, ce genre de métier très manuel, sans beaucoup de valeur ajoutée, malheureusement, va disparaître. On l'a vu partout dans le monde, on a tous en tête ces images de 1920, des coulis chinois dans des ports d'Asie. On a tous en tête ces images des mineurs, des gueules noires. On a tous en tête les images de ces dockers de Marseille et du Havre des années 1930, 1940, 1950. Tout cela ont disparu en Afrique. Malheureusement, ça va être la même chose. Donc il faut traiter ce problème social, et ce problème social doit aujourd'hui être traité. À Madagascar, par exemple, où nous avons fait une mission pour la Banque mondiale, il y avait très clairement cette problématique de comment est-ce qu'on fait pour améliorer les opérations du port, comment est-ce qu'on fait pour amener de l'équipement pour aller plus vite, pour répondre à cette massification des volumes, à cette conteneurisation. Malheureusement, on a plusieurs milliers de dockers dans la ville même. C'est une partie très significative des habitants de la ville. Comment est-ce qu'on fait pour passer à ces machines et passer finalement de ce docker qui, sous 40 degrés, porte un sac de 50 kilos, à peut-être la fille de ce docker qui va être formée, qui va être dans une cabine à 30 mètres du sol sur un RTG avec une température beaucoup plus agréable. Mais il y a tout ce passage à faire. Et le dernier passage, ce sera quand même dans ce RTG, il n'y aura plus personne, ce sera un robot et que finalement, ce sera une personne dans un poste un peu plus loin qui conduira cette grue comme un drone. Mais dans l'entretemps, il faut gérer ça socialement parce que ces pauvres gens, il faut les accompagner.
Merci à Amaury de Féligonde.
Merci beaucoup Bruno.
Co-fondateur d'Okan Partners, Okan, O-K-A-N. On peut lire vos rapports sur votre site. Merci également à Yann Alix.
Merci Monsieur Faure.
Directeur général de la Fondation C'est Facile. Tous vos rapports passionnants sur votre site cestfacile.com, S-E-F-A-C-I-L. Et merci enfin à vous Michael Mama.
Merci beaucoup, Monsieur Faure.
Directeur de l'exploitation du port de Kribi au Cameroun. Nous retenons de cette émission l'émergence de champions sur le continent africain, l'industrialisation du secteur, une réflexion sur l'approvisionnement des zones enclavées, quelques retards en cours de rattrapage et des investissements massifs. Un dossier que nous continuerons de suivre naturellement dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Cette émission est à partager et à commenter sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine, nous parlerons de la situation économique de l'Europe avant les élections européennes de juin prochain. Un nouveau journal, tout de suite, sur Radio France Internationale. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.